Nous allons désormais parler de littérature et c'est d'abord Christine Détré qui va faire une conférence autour de la littérature et qui sera ensuite rejointe par des intervenants que je présenterai à ce moment-là. Merci.
Rebonjour. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction générale, je disais qu'on allait parler de stéréotypes qui touchent les hommes et les femmes. Là, moi, dans le cadre de l'exposé que je vais faire, je ne vais parler que des stéréotypes qui touchent les femmes. Voilà. Mais après, dans la table ronde, ça élargira, etc. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est issu d'un travail que j'avais mené avec Anne Simon, qui est chercheure au CNRS en lettres. Donc, c'était la volonté d'associer un regard sociologique et un regard littéraire. Et c'était surtout... Enfin, suscité par une abondance d'articles au début des années 2000, à chaque rentrée littéraire, sur une nouvelle génération d'écrivaines qui était dite féministe, qui était dite transgressive, parce qu'elle parlait du corps et notamment parce qu'elle parlait de la sexualité, avec des descriptions très débridées, etc. Et cette idée de corréler un affranchissement des normes de genre et des stéréotypes par un déplacement de la place de la sexualité dans l'œuvre des femmes. Donc juste, je voudrais commencer avec une citation d'un roman de Laurette Nobécourt qui s'appelle « La conversation ». Donc la phrase c'est « 28 ans donc, toujours debout, avec le corps qui me travaille ». Et il me semble que vraiment cette ouverture, c'est l'ouverture du roman « La conversation » et ça pourrait servir d'exergue à une grande partie des productions romanesques féminines contemporaines. Et c'est intéressant de le rapprocher avec le discours en fait des féministes des années 70 qui avançaient notamment que la libération de la femme et la libération de l'écriture de femme. Ah oui, alors peut-être que je vais faire des raccourcis écriture féminine, il y a absolument rien d'essentialisant, ça sera peut-être juste des raccourcis oraux. Pour moi, écriture féminine, c'est écriture de femme, faite par une femme, rien de plus et rien de moins. Donc cette idée que l'écriture de la femme passerait par une écriture du corps, et donc il semblerait qu'effectivement elles ont été entendues par les auteurs depuis les années 90. Alors on va le voir dans l'exposé, si on peut déceler de réelles avancées, cette libération supposée des stéréotypes qui touchent le corps des femmes et l'écriture des femmes mérite néanmoins d'être interrogée, tant on va le voir, elle est ambivalente. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que sociologue, c'est de montrer, comme je disais tout à l'heure, que les ambivalences de construction, déconstruction, reconduction de stéréotypes du genre, on peut les mettre en rapport aussi avec des discours sociaux contemporains, et notamment la force des discours sociaux contemporains sur la sexualité et la corporéité féminine, qui, on va le voir, sont fondées sur une sorte de série d'impératifs contradictoires. Donc c'est un peu l'idée d'emprunter à Foucault la notion d'espace discursif et de montrer en fait que sur le corpus de romans que nous avons étudié, donc en gros les romans écrits par les femmes depuis les années 90 et les romans qui ont été, je le précise aussi, qui ont été best-sellerisés, vous voyez, qui ont été portés par une critique, portés par les médias. Et donc que ces romans-là, on peut les mettre en relation avec toute une sorte de nouvelle vulgate qui est véhiculée par des médias et par la science, notamment la neurobiologie telle qu'elle est vulgarisée. On va le voir, non seulement les anciens stéréotypes se perpétuent, mais de nouveaux clichés voient désormais le jour qui aboutissent à une doxa générale sur le corps des femmes. Donc encore une fois, je le redis parce que c'est parfois une critique qui est adressée notamment aux sociologues, pas question ici de donner de bons ou de mauvais points, hein, et c'est absolument pas ce que je vais mener, un travail de critique littéraire. Donc il n'y a pas non plus de jugement esthétique, pour le coup, sur telle ou telle œuvre. Donc là, le but, c'est vraiment de travailler sur le rôle des stéréotypes, de montrer qu'il y a une distance souvent entre une volonté d'affranchissement et le résultat, et de comprendre cet écart, cet interstice, pour reprendre le mot de tout à l'heure, et que justement cet écart entre une intention et un résultat, ça témoigne de la force de la socialisation, du formatage des imaginaires et des héritages. En fait, c'est comme si, quand on décide, quand on est une femme aujourd'hui, d'écrire, on pourrait dire de faire de la danse, on pourrait dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on pourrait dire il manque des arts, on aurait pu parler du théâtre, on aurait pu parler de la musique. On commence avec une forme de cage mentale qui est valable pour les femmes comme pour les hommes. Donc, premier point de l'exposé, donc, une petite description rapide de cette focalisation des écrivaines, alors encore une fois sans homogénéiser, hein, de beaucoup d'écrivaines contemporaines sur la sexualité et de ce que j'ai appelé le charme discret des anciens stéréotypes. Alors effectivement, si les critiques dans les années 90 et jusqu'il y a quelques années, donc je reviendrai en conclusion sur ce « il y a quelques années », soulignaient à chaque rentrée littéraire la liberté de ton, voire l'amoralisme et donc le féminisme, vous voyez, comme si les deux étaient associés, amoralisme et féminisme des auteurs. Quand on regarde le corpus que je détaillerai après, au niveau des sexualités décrites, on se rend compte que souvent, effectivement, le corpus prend des airs de Kama Sutra littéraire. Donc, sans nous étendre spécialement sur ce thème, donc voilà, les thèmes de la masturbation, de la fellation, de la sodomie, du multipartenariat, ils sont vraiment monnaie courante. Et c'est même dans la dérivation de la littérature reconnue à ce qui est lu, donc encore une fois, sans mettre de frontières légitimistes entre telle ou telle production, c'est toute une production de littérature gentiment érotique qui s'inspire de ce filon et qui se vend en tête des gondoles des librairies de gare. Alors par exemple, quelques titres évocateurs comme « Fantasmes de femmes »,« Des désirs et des hommes »,« Jouir », etc. Donc la question, c'est que cette désinvolture apparente en matière de sexualité, est-ce que c'est vraiment la marque d'une réelle libération, d'un retournement des normes de genre qui voudraient que la femme soit dans le sentiment, soit dans l'attente, etc. Ou est-ce que c'est une simple posture affichée, voire une forme déguisée d'une même morale? Et donc, on va le voir, à y regarder de plus près, la sexualité dans la littérature a quand même bien du mal, malgré les titres provocateurs, malgré les scènes explicites, malgré les quatrièmes de couverture alléchantes, à s'affranchir des carcans moraux et des codifications littéraires. Alors, plusieurs exemples pour ça. Par exemple, si on regarde la façon dont elles décrivent les rapports érotiques, souvent, c'est un simple décalque au féminin des clichés masculins. Alors, encore une fois, quand je dis clichés masculins, c'est clichés portés par la littérature écrite par des hommes. Donc, les clichés qu'on trouve dans la littérature écrite par les hommes, les plus traditionnels. Alors, par exemple, il est vrai qu'à voir certains textes, on dit que s'ils étaient signés par un homme, ils seraient parfois considérés comme purement pornographiques, voire attentatoires à la dignité féminine, alors qu'ils paraissent révolutionnaires, voire inédits, parce qu'ils sont le produit de la plume d'une femme, ou du clavier, enfin si on en actualise un petit peu, d'une romancière. Alors, effectivement, il y a du vrai dans cette impression de subversion, puisque la situation, le fait que ça soit une femme qui écrive et pas un homme qui écrit, déjà a un effet en tant que soi, et dans la réception. On peut cependant se demander si reconduire les représentations traditionnelles du féminin comme du masculin, en les assumant certes, ne revient pas à ne faire que la moitié du chemin. Et je voudrais citer à ce propos une remarque de Nancy Houston, donc qui avait écrit un livre qui s'appelait « Mosaïque de la pornographie ». Et donc, elle en fait deux éditions. Première édition, c'est avant la vie sexuelle de Catherine M. Et elle dit dans l'introduction, donc tout son livre, c'est une étude de la littérature rose et pornographique écrite par des hommes. Et dans l'intro, elle dit « Le jour où les femmes vont écrire, ça changera ». Et elle fait une deuxième édition, je crois que c'est en 2005, et là, elle remarque que finalement, le fait que les femmes aient écrit, ça n'a rien changé. Et elle dit même que, à propos de Catherine Millet, donc je cite, que la sexualité féminine se coule dans le moule préfabriqué de la sexualité masculine la plus traditionnelle. Donc effectivement, on se rend compte que dans toute cette littérature, l'innovation ne se situe pas dans les structures de la relation sexuelle, mais dans la répartition des hommes, des rôles entre les hommes et les femmes, puisque c'est exactement les mêmes schémas narratifs. Alors, quel schéma narratif? Premièrement, la loi des grands nombres, c'est-à-dire donc notamment les conquêtes abondantes, etc. Et de la même façon que c'est la femme qui, en écrivant, prend l'initiative, à l'intérieur des romans, on a l'impression que ce sont les personnages féminins qui apparemment vont mener la danse. L'homme devient un objet du désir féminin que la femme traque et séduit, et elle en fait un instrument pour son plaisir. Alors par exemple, un roman qui avait fait beaucoup de bruit, c'est « Baise-moi » de Virginie Despentes, où les deux héroïnes partent en chasse d'un garçon pour la nuit qui leur permettra de moins cogiter. Donc je cite « moins cogiter ». Et l'homme, métonymiquement, se trouve réduit à sa seule fonction désormais utile, qui est l'organe, reprenant le sens étymologique donc d'organon, l'outil. Catherine Millet, de la même façon, si on regarde un petit peu ses livres, dit en fait ne pas connaître le visage de la plupart de ses partenaires. Et ça, c'est une constante de toute une production où les amants se succèdent, qui sont à peine dotés d'un prénom. Alors par exemple, chez Laurette Nobécourt, dans la conversation, vous avez une série de prénoms, simplement désignés par une lettre, donc ça c'est chez Catherine Cusset, ou par une fonction. Donc père, amant, mari, psy, etc. Ça c'est chez Camille Laurence, dans ces bras-là. Et l'ultime de ça, en fait, c'est un nombre impossible à clore, donc dans la vie sexuelle de Catherine M., où la narratrice en dénombre 49, je cite, « identifiables », auxquels s'ajoute une foule anonyme. Ce qui nous avait posé question, en fait, à lire tout ça, c'est de se rendre compte que par là même, est-ce que la femme ne continue pas, paradoxalement, à être toujours associée à la sexualité et à la chair? En gros, elle ne fait que ça, elle n'est bonne qu'à ça, elle ne pense qu'à ça. Et c'est aussi un thème qui était relevé par Nancy Houston à propos de la pornographie écrite par les hommes, où elle disait, elle mettait en évidence dans ses romans-là le goût des héroïnes pour le porno. Donc je cite Nancy Houston, quand elle n'est pas en train de se faire sodomiser, la femme lit un livre pornographique. Donc là, le progrès aidant, les personnages de Dépente, de Saint-Père, de Nobécourt ne lisent pas. Ça, sociologiquement, c'est vrai, on lit de moins en moins. Mais elles regardent des cassettes, et on pourrait dire, bientôt, ça sera le DVD et le Divix. Mais ça confirme, quelque part, ce stéréotype d'une femme exhibitionniste, lascive, et par nature, et là, si je dis par nature, c'est vraiment en pesant mes mots, esclave de ses sens. Autre structure inchangée, qu'on trouve aussi bien dans les romans d'hommes que de femmes, c'est l'association du sexe et de la violence. Donc ça, vraiment, motif récurrent, même si, encore une fois, la violence émane de la femme. Donc on peut vraiment se rendre compte que, chez la plupart des auteurs, la chair n'est pas gaie, et les métaphores sont d'ailleurs explicites. Alors, par exemple, dans un livre qui, pourtant, a reçu de nombreux prix, qui, sur la quatrième de couverture, est qualifié de roman révolutionnaire sur l'amour, qui est le livre d'Alice Fernet, dont là, soudain, j'ai oublié le titre. Non, c'est pas Paradis conjugal, c'est la conversation amoureuse, voilà. Et donc, je vous cite une phrase de la conversation amoureuse. Donc, c'est une épée, ce truc, disait Marc à propos du sexe des hommes. Donc, vous voyez, l'image de la lame phallique qui est complètement, pour le coup, stéréotypée. Quant au revolver, il est explicitement comparé au sexe masculin tout au long de Baise-moi. Et donc, on a vraiment cette idée encore d'association entre Eros et Thanatos. Alors, décalage néanmoins, qu'on pourra interroger, c'est que le corps dépecé ou sanguinolent, dont déjà que remarquait déjà Nancy Houston dans les livres d'hommes qu'elle étudiait, en fait, n'est plus cette fois exclusivement un corps féminin. Donc là, effectivement, c'est Baise-moi qui montre ça de façon le plus évident. Et signe également d'une réappropriation du stéréotype. Dans de nombreux romans, en fait, ce stéréotype de l'amour violent, en fait, perd sa valeur métaphorique pour être appliqué au sens propre, ce qui est en soi une façon de le subvertir. Donc, par exemple, dans Nobécourt, dans la démangeaison, les ongles de l'héroïne ne vont pas se contenter de s'enfoncer dans la peau des partenaires, mais ils déchirent littéralement la peau. Les ongles, d'ailleurs, ne suffisent pas toujours, puisque l'héroïne de la conversation a poignardé son amant. Et varié est le répertoire des armes utilisées. Donc j'ai déjà parlé des pistolets dans Baise-moi, les couteaux, alors ça donc dans la démangeaison, dans les moufettes d'Atropos de Chloé Delhomme, plus originaux les talons qui fracassent les visages dans Baise-moi, et quand même la palme de l'innovation domestique, c'est le micro-ondes judicieusement agencé et trafiqué pour castrer les victimes. Ça c'est dans les moufettes d'Atropos, qui est, où il y a vraiment tout l'humour aussi. J'aurais pas le temps d'en parler de l'humour, mais qui vient aussi, revivifier le stéréotype. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au sens propre comme au sens figuré, dans ce jeu de force, la femme ne sort pas gagnante. Donc, les héroïnes de Baise-moi, comme la narratrice de la conversation, se font violer, frapper, étrangler. Et on peut et c'est intéressant de lire après le King Kong théorie de Virginie Despentes, parce qu'elle explique aussi que mettre tant de violence dans les romans en l'associant à la sexualité, c'est un moyen aussi de dynamiter le fait que les femmes dans la vraie vie, même quand elles se font violer, ne réagissent pas. Et elle raconte donc une scène qui lui est arrivée où elle s'est faite violer, elle avait un couteau dans la poche et elle n'a pas osé le sortir. Donc c'est vrai qu'à la lumière de ça, ça peut voilà, il y a une dimension quand même de dénonciation des dominations masculines. Donc on a vraiment l'impression que perdue d'avance, elle s'agite vainement, se déchire littéralement, moralement et physiquement. Donc en fait, on a quand même, vous voyez, dans cette reconduction du stéréotype, cette idée que est-ce qu'il suffit de se trouver du bon côté du couteau pour s'affranchir à long terme des rapports de domination, qui sont beaucoup plus insidieux, en fait, qu'une simple scène entre deux personnes. Et c'est la même question qui était posée au sujet des héroïnes de Sade. Est-ce parce qu'elles torturent leurs victimes, parce qu'elles semblent, et je cite encore Nancy Houston, avides de se prouver aussi douées que les hommes pour la transformation du corps en objet, la représentation de la cruauté et des perversions sexuelles, que les libertines de Sade sont des femmes libres? Donc la question reste ouverte. Deuxième thème, nouveau cliché pourrait-on dire, et qui est vraiment un rapport pour le coup avec un discours social très prégnant actuellement, c'est le devoir de performance. Donc on le voit déjà avec ce que je relevais avec le multipartenariat et le fait d'avoir toujours de nouvelles et de nouvelles conquêtes. Mais il me semble que c'est intéressant de le mettre en rapport avec tous les travaux des sociologues qui ont insisté sur l'aspect fallacieux de ce qu'ils appellent le corporéisme. C'est-à-dire tout cet ensemble de discours qui, dès les années 70, ont vanté le corps et sa libération. Et avec l'idée qu'en fait, ça serait une nouvelle norme, c'est-à-dire qu'on aurait un idéal de libération et de performance qui devient aussi contraignant finalement que les normes qui étaient beaucoup plus explicites. Et là encore, Irène, dans la conversation de Laurette Nobécourt, dit donc « Votre corps ne vous inquiète jamais, moi si ». Et même Catherine Millet livre cette confidence assez étonnante. Donc je cite, peut-être n'ai-je pas eu envie de remettre en cause cette facilité, donc le multipartenariat. Certes, je baisais pour le plaisir, mais est-ce que je ne baisais pas aussi pour que baiser ne soit pas un problème? Et effectivement, cette obligation de sexe, on le voit très très fort dans ses romans, et surtout quand on le met en parallèle avec tous les articles de presse, etc., c'est une obligation de jouissance. C'est-à-dire que la représentation d'un corps extrêmement libre aboutit rapidement à un renforcement des contraintes, comme si le corps réel des individus était soumis à un corps idéal, amoral et épanoui. Donc ça pose du coup la question, c'est-à-dire que, comme le remarquait Michel Foucault, c'est-à-dire la dichotomie traditionnelle entre une âme enfermée, vous voyez, soma, enfin enfermée dans un corps qui serait un tombeau, le sépulcre de chair. En fait, c'est ce qu'on n'est pas maintenant. Donc lui, il retourne cette dichotomie en disant que l'âme, entendue comme un ensemble de discours et de représentations d'une société, serait en fait aujourd'hui la prison du corps. Vous voyez, donc en retournant, alors en faisant un glissement sur le sens d'âme, mais en retournant le rapport de domination. Donc effectivement, non seulement la sexualité, loin de s'être banalisée, reste du domaine du sacré, du sacré et du maudit, et de l'hybris, c'est-à-dire, voyez, l'exaltation, etc., mais la libération affichée est créatrice de nouvelles normes. Et paradoxalement, la déculpabilisation sexuelle des femmes se retourne en son contraire. Donc ça, c'est plusieurs enquêtes qui avaient été, ou même juste à voir les magazines et la presse, on se rend compte comment toute cette sexualité libérée, à longueur de magazines, à longueur de pourcentage, à longueur d'enquêtes sur la sexualité des Français, etc., etc., peut devenir une sorte de nouvel impératif catégorique. Et ça, c'est très bien dénoncé par Marie Nimier dans La Nouvelle Pornographie, où elle énonce donc les recettes d'un bon roman pornographique, parce que son éditeur en veut un. Enfin, l'éditeur du personnage. Donc elle dit, le client a le choix entre sept familles. Exhibitionnisme, voyeurisme, inceste, sodomie, sadomasochisme, zoophilie et une rubrique fourre-tout qui s'enrichit à mesure que les demandes nous parviennent. Alors, autre élément intéressant sur cette focalisation de la sexualité, est-ce que c'est vraiment une libération? Est-ce que c'est un affranchissement des stéréotypes? Et ça va rappeler ce que disait Hélène tout à l'heure sur l'idée qu'on ne peut pas penser les normes de genre en les disjoignant en fait des rapports de pouvoir et de domination dans lesquels elles s'inscrivent. C'est-à-dire que voilà, les stéréotypes, c'est pas gratuit, c'est pas des jeux gratuits, c'est pas des jeux de mots, c'est pas des jeux gratuits. Et on se rend compte très très vite en fait que dans tous ces romans, on a un retour du refoulé qui est l'éternel féminin, avec un homme qui est le Pygmalion. Alors, quelques exemples, mais de romans où on se rend compte que derrière une nudité affichée, on a l'impression d'avoir un nouvel habit, paradoxalement, de la domination masculine. C'est-à-dire que l'homme reste, malgré tout, le sexe fort. Alors, quelques exemples de La conversation amoureuse, donc ce fameux roman qui bouleverse le thème de l'amour. Donc, vous allez voir, donc Pauline se sent, je cite, « nue devant la force ». Donc, c'est juste parce que son futur amant lui a pris la main. Et là, ça me faisait penser à ce que disait Hélène sur les chorégraphies, ou enfin dans la rue, qui prend la main à qui. Et donc, elle dit, et elle se pâme lorsqu'elle voit en lui un maître. Et je continue à citer, « Il fut à ce moment l'homme mûr qui parlait à une gamine. Puisqu'il venait de la corriger, elle l'admira et s'obligea à l'écouter. » Et ça, vous avez tout au long de ce roman et d'autres, notamment dans les romans d'Alina Reyes, toute une métaphore de la chasse. On a vraiment l'idée que la femme est une proie et l'homme sera un chasseur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça encore une fois, donc juste un exemple d'Alina Reyes, c'est La chasse amoureuse, déjà rien que le titre. « J'aime tes petits mots parce que tu es si grand. Je fonds à te faire fondre parce que tu es si fort. Comme tu es puissant, mon homme. » Ce qui est intéressant, c'est que ce cliché a la vie extrêmement dure, et notamment en psychanalyse. Alors, donc encore une fois, sans homogénéiser la psychanalyse, mais la psychanalyse qui a accès aux studios de télévision et qui va diffuser dans l'opinion publique. Alors, par exemple, un livre de Hélène Vecchiali, qui en fait s'élève contre les initiatives féminines en matière de séduction et les rend responsables de l'impuissance masculine. Donc, je cite, « Symboliquement, l'homme est en présence d'un gibier à moitié estourbi, la femme, qui l'empêche d'exercer ses talents de chasseur. » Et donc, vous voyez, on voit bien comment la femme devrait rester la petite chose fragile et frêle dont Erving Goffman, le sociologue Erving Goffman, avait bien montré le succès dans les publicités. Alors, comme cette petite chose gracieuse et frêle, donc on le trouve aussi chez Alice Fernet et Alina Reyes, donc encore deux exemples. Donc ça m'a très vexée parce que moi, je suis grande. Donc, exemple suivant. Elle était très grande, 1m74, et possédait, malgré cela, une vraie grâce féminine. Moi, je fais 1m78. Alina Reyes, donc de la même façon, elle a l'impression que son corps est celui d'une enfant, petit, menu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment très vite, on va glisser, vous voyez, d'une différence de taille, d'une différence d'image à une différence de pouvoir. Donc, dans la conversation amoureuse, Pauline Arnoux était une femme qui doit aux hommes ce qu'elle est, car la confiance en soi est une chose presque sensuelle. La gangue de pureté close s'était déchirée et la féminité avait explosé avec volupté. C'était une féminité nourrie au regard des hommes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire cette idée de la femme, sorte de belle au bois dormant, qui ne va être révélée en fait que par le baiser du prince. Alors vous voyez, c'est exactement la même structure, sauf que c'est transposé sur des scènes beaucoup plus sexuelles que les contes de notre enfance. Mais en gros, c'est quand même l'homme qui l'accomplit. Donc là, je vous cite un autre extrait de toujours le même roman. « Mais vous êtes un peu mon œuvre, dit-il. Bien qu'elle fût blessée d'entendre cela, comme s'il avait joué à la modeler et que la peine ne fut rien, il ne se trompait pas. « Je vous ai éveillée, dit-il. C'est moi qui ai fait de vous une femme digne de ce nom, une source d'amour. » Et ça, de la même façon, pour finir cette reconduction des thèmes, en fait, des contes, hein, tout simplement, de la femme qui attend le prince charmant pour être révélée à elle-même, mais transposée sur des femmes d'aujourd'hui, on a très vite le thème de ce qu'on pourrait résumer par « des amants maintenant, un mari pour la vie ». Et vous voyez un peu « je suis une femme et donc je suis amoureuse », puisque c'est ma nature de femme d'être amoureuse et d'attendre l'amour. Et en fait, on s'en rend compte très très vite, l'amour avec un grand A reste la grande affaire en fait de ces romans et l'enjeu des sexualités les plus débridées. Alors par exemple, dans « L'amour roman » de Camille Laurence, les descriptions les plus crues des rencontres sexuelles avec l'amant s'intercalent en fait avec le récit conjugal de toute la lignée maternelle, avec des maximes de La Rochefoucauld et des chansons populaires sur l'amour. Et donc la romance devient en fait le roman de l'amour et devient en fait le centre de nombreuses œuvres. Comme si, donc là je cite Christine Angot, les essais à répétition, les tentatives toujours déçues de s'acoquiner avec d'autres tendaient vers un seul but qui est, je cite, trouver au monde la personne. Alors après, je montrerai hein, qu'elles elles ont conscience aussi hein, de voilà, tout le formatage qu'on a pour ça. Et donc toujours Christine Angot, donc connaître au monde la personne, y reconnaître le vrai prince. Et elle dit, un jour je serai la femme d'un homme, sa femme. Et elle met le « sa », vous voyez, « sa » en majuscule dans le texte. Et la forme achevée, paradoxalement, de cet amour est l'amour conjugal. Et on se rend compte, en fait, que depuis Durkheim, le couple n'a pas tellement changé de fonction, c'est-à-dire c'est le véritable instrument de l'ordre social, et qu'il est à préserver coûte que coûte, et même si pour ça, justement, il faut avoir des aventures à côté. Alors, par exemple, dans Anna Rosen, donc elle dit « Les conventions sont destinées à éviter que la société ne retourne au chaos. » Et le chaos, c'est en fait échapper, vous voyez, c'est la désagrégation des lois familialistes. Donc le couple, ça devient une entité à part entière, un « nous ». Et « nous », c'est le titre d'un livre de Laurette Nobécourt. Et vous voyez, il y a le double jeu sur « nous », le pronom « nous », et « nous » en grec qui veut dire « l'esprit », vous voyez, le fondement. Donc je cite... Et on va voir déjà ce que je développerai après, la conscience aussi qu'elles ont de la socialisation, et ça c'est une grande différence. Ce bibelot du bonheur, qui implique fatalement un appartement en commun, des dimanches chez les parents, des vacances entre amis, un mariage, et bien sûr quelques progénitures, et qui pourrait se résumer à faire un enfant avec l'homme que j'aime et rester avec lui. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que, et là je vais revenir aussi un peu à quelques éléments de sociologie, c'est que les choses n'étant plus aussi simples aujourd'hui qu'il y a une ou deux générations, quelques aménagements sont à prévoir en fait dans les règles de ce jeu auxquelles, je cite Laurette Nobécourt, les adultes ont non seulement le droit, mais le devoir de jouer pour que soit préservé en fait l'essentiel, la conjugalité. Et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le sexe sous toutes ses formes en fait ne va se penser qu'en fonction de cet amour conjugal. Et c'est même, justement, avoir une aventure pour que ça profite à l'harmonie conjugale. Donc, des extraits de romans, avant de donner des extraits de presse sur le même thème. Donc ça, c'est encore Alice Fernet. Il avait aménagé l'amorosité conjugale. Il possédait un refuge dont Blanche, c'est sa femme, se privait. Il était infidèle. Et si étrange que cela puisse paraître, ce papillonnement l'attachait encore à son épouse. Elle était la permanence vers laquelle il revenait. Elle était son havre, la gardienne de sa foi dans l'amour, la seule pour qui il ressentait ce sentiment. Tout cela était parfaitement explicable. Donc vous voyez les frasques en fait ne vont pas remettre en cause le noyau ne vont pas mettre en péril le couple, mais au contraire vont servir à raviver en fait le désir. Donc, question, on peut se demander là, est-ce que c'est juste une question de littérature, une mode? Alors bien évidemment non. Donc là, je voulais juste vous parler très très rapidement de cette morale de l'immoralité qu'on retrouve dans la presse et qu'on retrouve surtout dans des best-sellers de neurobiologie, Lucie Vincent en tête. Alors Lucie Vincent, donc elle a écrit un livre qui s'appelle « Comment devient-on amoureux ?» où en fait elle fait toute une analyse, donc publiée chez Odile Jacob, où elle fait toute une analyse fondée sur des expériences en laboratoire, des expériences chimiques, etc., sur ce qui est une nouvelle mode en ce moment, qui est la chimie de l'amour. On vous explique qu'en fait, chimiquement, l'amour ne dure pas plus que 2 ans, et on vous dit que de toute façon, alors au début, le livre s'adresse à tout le monde, et très vite, c'est vous les femmes. Et on va voir après pourquoi c'est vous les femmes. Et donc que vous les femmes qui voulez quitter votre mari, on vous explique que de toute façon, dans chaque couple, il y a toujours 5 points de désaccord. Et que donc, vous allez quitter votre mari, vous allez bénéficier de 2 ans d'euphorie chimique, et qu'après, on va retrouver à nouveau les 5 points de désaccord. Et ce que dit Lucie Vincent donc dans ce livre qui se présente comme quelque chose de scientifique, c'est que, en fait, en gros, ayez des amants, mais ne quittez pas votre mari. Et ce qu'elle dit, et là, elle dit que le meilleur moyen pour trouver le meilleur moyen pour trouver le mari idéal, c'est de lui demander ses bulletins scolaires. Parce que si sur le bulletin scolaire, c'est marqué « s'applique », vous voyez, « fais des efforts », là, c'est le bon. Parce que, justement, c'est le couple, c'est de la construction. Non, c'est pas de la castration, c'est de la construction. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est cette conjonction entre une nouvelle vulgate pseudo-scientifique de grand public, un espace discursif romanesque et aussi tout un, là j'ai pas développé, mais tout un été de presse. Alors qui était au moment justement où ce livre paraissait et où on avait toute une série de dossiers spéciaux, mais alors dans tout le ça allait du Monde à Libération, l'Express, Science et Vie, Femme Actuelle, etc., sur la nouvelle fidélité qui est la polyfidélité. Alors ça c'est intéressant parce que il faut se souvenir quand même que les femmes de catégorie aisée au capital culturel élevé sont sans doute celles qui présentent le plus de risques pour le maintien des normes familiales classiques. Donc c'est elles qui ont échappé, voyez, enfin la société dans son ensemble, mais peut-être elles encore plus aux normes de l'Église, à la morale traditionnelle véhiculée par l'Église, et c'est elles aussi qui ont les moyens, voyez, de l'autonomie économique, de l'indépendance économique. Et là, je voulais citer en fait Christine Guillonnet et Éric Neveu dans un livre qui s'appelle Féminin masculin et qui explique en fait que il y a vraiment plusieurs facteurs qui se conjuguent et qui menacent le lien conjugal. Donc il parle de notamment la valorisation dont je parlais tout à l'heure d'une norme de vie sexuelle intense et gratifiante répétée à longueur d'enquête journalistique voire sociologique, confrontée à un supposé caractère routinier de la vie conjugale, la substitution de l'attirance et de l'amour à la convenance ou au lignage, comme socle du couple, mais également, disent-ils, l'évolution des cadres juridiques et les conditions matérielles avec la montée du travail des femmes. Et donc, il rappelle que 46% de la population active est féminine, donc c'est un livre qui datait de 2004, et qu'en 2004, 71% des demandes de divorce provenaient des femmes. Et donc de la même façon, si on regarde les enquêtes sociologiques sur la sexualité, donc il y en a une nouvelle qui est parue récemment, notamment dirigée par Michel Bozon, on voit en quelques décennies l'augmentation du nombre moyen de partenaires sexuels déclarés dans la vie d'une femme. Bon, parce que là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir entre déclaration et... Et cela dit, si je vais rentrer dans le détail, parce que ça va servir pour après, c'est qu'en fait, dans cette enquête pratique sexuelle des Français, il y a une incohérence qui est que les femmes déclarent toujours moins de partenaires que les hommes. Et donc, statistiquement, ce n'est pas cohérent. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas cohérent. Et donc, ce qu'explique Michel Bozon, c'est qu'une des explications... Et donc, après, il demande... Il y a une question ouverte. Et ce qu'ils se sont rendus compte dans la question ouverte, c'est que les hommes comptaient toutes les partenaires, même les occasionnels, etc., alors que les femmes ne retenaient que celles... Que ceux ou celles... pour qui il y avait eu du sentiment. Et donc, vous voyez, cette corrélation de, encore, sexualité et amour, dont on voit qu'elle est une norme très, très forte, voilà, même dans une déclaration pour une enquête statistique. Alors, je le disais tout à l'heure, si la neurobiologie fonde l'amour sur un plus fort que soi génétique, les auteurs, en fait, sont conscientes du plus fort que soi social et culturel de ce que Laurette Nobécourt appelle des contes de fées mensongers. Et certaines essayent de répondre à la question, en suggérant par exemple que l'on vit dans un monde où tout est fait pour deux. Vous voyez que du coup, ça va formater en fait, ça nous socialise. Donc là, je cite Anna Rosen, donc c'est « Méfie-toi des fruits ». Tarif couple, chambre double et supplément single, machine à expresso pour deux tasses, panier à deux anses et chansons sentence. Et ces chansons sentence, elles sont au cœur même du roman dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'amour roman en fait de Camille Laurence. Donc, où vont voisiner à la Claire Fontaine, Cora Vauquer. Donc, Cora Vauquer, c'est je vous aime, si je veux faire une performance, chanter la rengaine, etc. Et elle cite aussi Pascal Obispo, elle cite Indochine. Et donc, elle montre comment les refrains et les maximes littéraires fonctionnent comme autant d'inscriptions dans une culture du sentiment, contre toute explication biologique. Et donc, une citation de Camille Laurence, « Une chose est sûre, c'est que de toutes ces histoires qui inventaient l'amour, aucune, absolument aucune, n'était naturelle. » Et elle montre comment l'amour va s'inculquer à l'école, donc elle dit à l'école, comme les règles de grammaire, comme les exercices de mathématiques. Et elle dit « L'amour n'est pas une maxime, l'amour, c'est du roman. Un peu plus loin, l'amour, c'est du cinéma. Un peu plus loin, l'amour, c'est des mots. » Et encore un peu plus loin, toujours dans l'amour roman, l'amour, c'est une légende. Et cela dit, elle finit le roman en disant « Raconte-moi, lis-moi encore, mon cœur n'est pas là de l'entendre. » Donc en fait, ça, pour terminer cet exposé, tout ce thème, en fait, vous voyez, de la sexualité libérée, etc., pose plusieurs questions. Donc c'est-à-dire que, comme je l'ai montré tout à l'heure, cette libération du corps, pour le moins, elle peut paraître ambiguë. D'autant plus que j'ai pas développé ici, mais on a souvent l'impression que parler du corps, c'est parler de la sexualité. Alors, pas dans tous les livres. Il y a beaucoup d'autres romans où le corps, ça va être le corps en situation. Vous voyez, le corps pas réduit au désir sexuel ou à la sexualité. Et donc là, on a une expression du corps qui est liée à la sexualité, qui est elle-même liée à l'amour. C'est-à-dire encore ce motif de la femme qui attend à sa fenêtre. Et c'est intéressant parce que toutes les couvertures de Annie Ernaux, alors je sais pas du tout qui choisit ces couvertures, mais c'est des fenêtres. Vous voyez, dans les éditions Folio, c'est des fenêtres ouvertes sur des paysages. Changement néanmoins, c'est, comme je le montrais avec les derniers passages cités, la conscience de la force de la socialisation. C'est-à-dire l'idée que, c'est pas naturel, c'est le produit d'une socialisation. Et donc, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une situation quasiment d'entre-deux, c'est-à-dire une situation où les normes qui pèsent donc sur les femmes, en matière de sentiments, en matière de relations conjugales, ne paraissent plus naturelles, ne s'imposent plus avec l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence, mais qu'elles continuent quand même à façonner un imaginaire, vous voyez, à constituer en fait les références obligées, même narrativement en fait, de leur roman. Et donc, l'impression, en fait, que celles-ci en ont conscience, qu'il y a quand même une fêlure, mais qu'on a l'impression, en fait, qu'elles-mêmes se sentent à l'étroit dans cette cage mentale et qu'elles sentent qu'elles écrivent elles-mêmes également à l'étroit dans cet imaginaire trop balisé. Voilà.